RFJ Info.
Le journal de Jérémy Pignard.
Bonjour, des mois que vous attendez peut-être de pouvoir déguster votre petit café en terrasse, c'est à nouveau possible depuis ce lundi en Suisse avec la réouverture des terrasses des cafés et restaurants. Prise d'ambiance dans un instant. Une première dans notre pays, le Grand Conseil neuchâtelois sera à majorité composé de femmes, 58 sur 100 parlementaires élus hier lors des élections cantonales. L'Office cantonal neuchâtelois de l'égalité s'en réjouit. Elle fait trembler la planète football. La Super League, lancée officiellement par 12 clubs hier soir, une compétition semi-fermée, très lucrative, est censée concurrencer la prestigieuse Ligue des Champions. La météo, un ciel ensoleillé, mais des températures toujours fraîches demain matin encore, proche de zéro en matinée et une quinzaine de degrés dans la journée. Ça y est, les rues de nos vieilles villes retrouvent ce lundi quelques airs d'autrefois. Les terrasses de cafés et restaurants peuvent rouvrir depuis aujourd'hui. Cela fait partie des assouplissements annoncés la semaine dernière par le Conseil fédéral. Un petit plaisir que certains attendent depuis de longs mois, depuis l'année dernière. Michel Léoni est en direct de la terrasse du restaurant de la Croix-Blanche à Delémont. Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, quelle est l'ambiance? Est-ce qu'il y a du monde pour profiter des quelques rayons de soleil de ce début de semaine?
Oui, alors effectivement, on va dire que ce n'est pas l'affluence des grands jours, hein, évidemment, avec ce temps plutôt mitigé qui accompagne la réouverture des terrasses. Néanmoins, on voit que les gens à Delémont avaient envie de soutenir les restaurateurs pour ceux avec qui on a parlé, partager également un moment de convivialité sur les tables. C'est pour ça qu'elles sont allées, en grosso modo, ici à la Croix-Blanche à Delémont, à moitié garnies pour cette réouverture. Ça demande une certaine organisation aussi pour les restaurateurs dont on va parler avec vous, Olivier Schafter. Bonjour.
Bonjour.
Patron donc de la Croix-Blanche, ici du côté de Delémont. Déjà, en termes d'émotion, qu'est-ce que ça vous fait de voir cette terrasse elle est à moitié remplie?
Eh bien, ça fait un semblant de vie, ça reprend, quoi. C'est une sorte de résurrection par rapport à cette terrasse qui est ouverte. C'est vrai qu'elle est un peu clairsemée. Puis j'ai vu qu'ils ont remis les doudounes pour passer le midi en extérieur.
Finalement, est-ce que vous avez senti une sorte d'engouement quand même par rapport à cette réouverture qu'on connaissait depuis quelques jours maintenant?
Alors, un certain engouement, oui, mais pour les prochains jours, quand la météo sera de la partie, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu, on dirait, mitigé.
Pourquoi est-ce que vous avez fait le pari de rouvrir les terrasses, puisqu'on sait qu'actuellement les restaurants à l'intérieur sont toujours fermés?
Alors moi, par rapport à ce que je fais déjà, où je suis restaurant d'entreprise de midi avec des conventions de partenariat avec certaines entreprises, comme je vous dis. En plus, le soir, je suis avec l'Ibis, l'hôtel ou la Bonne Auberge en début de semaine, et également le restaurant Hôtel de Mexique où j'accepte leurs clients. Donc moi, ça ne me fait pas beaucoup de changements par rapport à mon infrastructure, mon équipe en place.
Donc une organisation plutôt moindre pour cette réouverture des terrasses.
Voilà, puis en plus avec tout l'emporté qu'on fait, les livraisons, donc on a vraiment un staff qui est là. Ça me fait juste une extra en plus pour le midi, voire le soir, tout dépend de la météo bien sûr.
Justement, puisque vous parlez de météo, est-ce que vous courez aujourd'hui un risque financier en lien notamment avec la météo?
Alors moi pas, vu que par rapport aux livraisons qu'on fait et aux partenariats qu'on a, on a très peu de problèmes là-dessus.
Et puis en termes de gestion de stock, qu'est-ce que ça implique finalement? On doit un petit peu anticiper quand même, notamment en fonction du temps?
Alors écoutez, voilà, on regarde surtout la météo, mais on fait pas plus qu'on faisait avant vu que la météo était mitigée aujourd'hui. Mais par la suite, voilà, ça va monter crescendo. Puis il faudra continuer à agrandir notre terrasse pour respecter les restrictions sanitaires par rapport au 1m50.
Vous l'avez dit, un météo mitigé pour cette réouverture aujourd'hui. Alors typiquement, une journée comme aujourd'hui, si les gens commencent à manger, qu'il y a une grosse averse, ou une averse du moins qui tombe, qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien voilà, grande question. Alors est-ce qu'on laisse les clients manger avec leur assiette sur les genoux puis leur parapluie? Ou est-ce qu'on transgresse la loi? Ça, c'est encore un grand problème. On les fait finir de manger à l'intérieur. On étudiera au cas par cas.
Justement, pour aujourd'hui, on espère que ça tienne bon, évidemment. Merci, Olivier Schafter, patron de la Croix-Blanche, d'avoir été avec nous.
Merci.
Et merci Michel Léoni en direct d'une terrasse de Lémontaine. On y revient ce soir, vous entendrez quelques clients heureux de retrouver ce petit plaisir de la vie. Les accidents de la circulation en hausse l'an dernier dans le Jura, c'est ce qui ressort des statistiques routières 2020 présentées ce matin par la police cantonale. Elles font état de 314 cas contre 294 l'année précédente. Le nombre d'accidents reste toutefois dans la moyenne des 10 dernières années. Le lieutenant Pierre-Alain Michel sera l'invité de notre journal ce soir à 18h pour pour commenter ces chiffres. Réduire la fracture numérique avec des bornes numériques. C'est le projet pilote lancé par la commune de Porrentruy en lien avec l'administration cantonale. Deux tablettes tactiles ont pris place à l'administration de la commune. L'idée, c'est de permettre aux citoyens de se familiariser avec le numérique qui s'invite toujours plus dans la gestion des affaires administratives. Vous faites votre démarche, vous pouvez être aidé par visioconférence, par du personnel de la commune ou de l'État. Le ministre de l'Environnement, David Herret, nous explique le principe de ces bornes numériques.
Le principe, c'est de mettre à disposition des citoyennes et citoyens jurassiens des bornes interactives au niveau de la commune de Porrentruy pour leur faciliter finalement l'accès à l'administration numérisée, l'administration digitale, ce qui permet finalement de rendre accessible à toutes et tous ces prestations en ligne qui permettent à l'État de rester efficace, qui permettent aux citoyens d'avoir l'accès facilité auprès de l'administration et donc de vraiment rendre l'administration accessible à toutes et à tous.
Quelle est la part d'intérêt en fait au niveau de ces bornes pour le canton ?
Des communes comme Porrentruy ont des prestations communales à disposition des citoyens, le canton idem. Et donc c'est d'avoir une borne où les citoyennes et citoyens peuvent accéder soit à des prestations communales, soit à des prestations cantonales, à partir du même interface, du même kiosque digital comme nous l'appelons.
Et puis justement, le Jura innove avec ses bornes numériques.
Alors nous sommes bien évidemment un canton innovant, nous cherchons toujours à innover mais pas non plus de façon irréfléchie, de façon pragmatique. C'est ce genre de projet que nous souhaitons pousser en avant, développer pour être finalement un canton avec des communes innovantes.
Le ministre de l'Environnement, David Herret, au micro de Coraline Kempf. Le résultat de ces tests sera suivi de près, notamment au niveau communal, cantonal et fédéral. C'est une première en Suisse. Une majorité de femmes siégera au Grand Conseil neuchâtelois. 58 candidates élues sur un total de 100 parlementaires. Hier, lors des élections cantonales neuchâteloises, en plaçant chacun 15 candidates, les partis socialistes et des Verts sont les deux formations à faire le plus progresser le nombre de femmes, suivies de très près par le PLR qui enverra 13 députés ES au château. Ces chiffres pourraient encore évoluer en raison de l'incompatibilité des doubles mandats entre les exécutifs communaux et le Parlement cantonal, mais aussi en raison du second tour au Conseil des États. Reste que cette majorité féminine réjouit la co-chef de l'Office cantonal de la politique familiale et de l'égalité, Laurence Beugli.
On constate qu'effectivement la préoccupation sur la question de l'égalité a pris de l'importance au cours des dernières années. Je pense que la grève des femmes en 2019 a été un signal pour beaucoup de femmes aussi d'une possibilité accrue d'investir les lieux publics. Ensuite, c'est un thème qui a aussi été traité par le Parlement avec une préoccupation d'arriver à une parité des genres dans le Parlement. On voit aussi que les partis politiques ont relayé ça en ayant des listes avec un nombre accru de candidates par rapport à d'autres occasions et puis que ça a été pris au bon également par les électeurs et les électrices qui ont choisi de donner au canton de Neuchâtel une majorité de femmes dans le Parlement.
Alors cette vague violette, elle s'observe aussi dans d'autres cantons, elle s'observe ailleurs en Suisse romande, ailleurs en Suisse ?
Alors on a observé en Suisse une vague violette au Parlement de la ville de Berne, qui est composée actuellement de 70% de femmes. Par contre, au niveau cantonal, c'est vraiment une grande première, à ma connaissance du moins, à notre connaissance, puisque dans les élections récentes qui ont eu lieu en 2020 ou 2021, seul un canton dépasse 40% d'élus, tous les autres cantons étant largement en dessous et dépassant le tiers pour peu d'entre eux.
Laurence Beugli qui répondait au téléphone à Adrien Juvet au terme du premier tour de l'élection au Conseil d'État qui a débouché sur un ballottage général. Deux femmes ont terminé parmi les 5 premiers rangs. La socialiste Florence Natter et la libérale radicale Christelle Graff. Le second tour est prévu le 9 mai. Écriture inclusive, langage épicène, des nouvelles formes de communication qui suscitent des opinions contrastées. Il y a les adeptes qui voient une façon de mieux représenter la diversité de la société et puis les adversaires qui déplorent des complications inutiles comme Benjamin Roduit, le conseiller national PDC valaisan. Il a déposé lors de la session de printemps une motion pour interdire l'utilisation de l'écriture inclusive au sein de l'administration fédérale. Ce professeur de français, membre de la commission de rédaction, voit dans cette pratique un risque d'exclusion pour les personnes qui ont déjà des difficultés de lecture. Pour Benjamin Roduit, celles et ceux qui veulent faire avancer l'égalité de cette manière font fausse route.
Je vois très bien le combat politique qui est mené pour plus d'égalité, notamment en ce qui concerne les genres. Alors moi, je mets toute mon énergie pour qu'il y ait plus d'inégalités salariales. Ça me paraît beaucoup plus important que carrément réformer une langue complète, hein, où non seulement on alourdit, hein, le système, mais il faut bien penser qu'il y a un support politique, hein, que l'on veut peut-être imposer uniquement à travers la langue et que cela n'est pas admissible.
Alors, est-ce que les féministes qui utilisent un langage épicène se tromperaient de combat ? La réponse de Léonore Porchet, conseillère nationale verte vaudoise et spécialiste en communication.
Moi, je n'emmène pas un combat pour l'écriture épicène, simplement que j'utilise. Le combat, on me l'impose avec des motions comme celle de M. Roduit. Le second point, c'est que lutter pour que l'écriture inclusive ne soit pas interdite et lutter pour les droits des femmes, la lutte contre les violences sexistes, etc., etc., eh bien, les deux peuvent se faire. Et puis, pour finir, lorsque on fait en sorte que les petites filles puissent trouver tout à fait normal qu'on dise « chef avec deux F » ou « chère madame, cher monsieur », lorsqu'on ouvre les informations, et donc qu'elles comprennent que ça les concerne aussi, eh bien, on change aussi la société en faveur de l'égalité.
Et le Conseil national pourrait se pencher sur cette question lors de la prochaine session. En allemand, le débat est un peu plus avancé avec à la clé quelques règles unifiées. Le télétravail gagne en importance. La part de travailleurs suisses pratiquant le travail à distance a atteint 34,1% l'an dernier contre près d'un quart un an plus tôt. Les recommandations et obligations émises par le Conseil fédéral face à la pandémie de coronavirus ont favorisé cette pratique. Chiffre dévoilé aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique. L'Union européenne réclame l'hospitalisation d'Alexeï Navalny. L'UE se dit très inquiet pour la santé de l'opposant russe. Les 27 ministres des Affaires étrangères doivent s'entretenir aujourd'hui. Nous rendons les autorités russes responsables de la santé de M. Navalny. Déclaration du chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell. Aucune sanction contre Moscou n'est pour le moment en discussion. Derek Chauvin a-t-il provoqué la mort de George Floyd ? L'accusation et la défense ont aujourd'hui une ultime occasion de faire pencher la balance au dernier jour du procès du policier américain. Le jury se retirera ensuite pour délibérer. Le policier blanc, Derek Chauvin, est jugé pour meurtre, homicide involontaire et violence involontaire ayant entraîné la mort de George Floyd, un afro-américain. C'était en mai dernier à Minneapolis.
RFJ, il est 12h28.
Sport. La révolution est en marche sur la planète football avec l'annonce de la création d'une Super League, comprenant une Coupe d'Europe des mastodontes financiers du football européen. 12 grands clubs, 3 espagnols, 3 italiens, 6 anglais ont annoncé officiellement la nuit dernière la création d'une Super League. 3 autres clubs vont être invités à les rejoindre. L'objectif, il est clair et assumé, concurrencer la Ligue des Champions et gagner beaucoup plus d'argent, Michel Léoni.
C'est une véritable bombe qui a été lâchée sur le rectangle vert. La Super League européenne réunira la plupart des mastodontes du football. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, la Juventus, l'AC Milan, l'Inter Milan, le FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham et Arsenal. 12 clubs donc auxquels vont s'ajouter 3 autres clubs qui doivent encore recevoir une invitation. Pas de traces pour le moment du Paris Saint-Germain ni du Bayern Munich qui ont décliné la proposition d'après plusieurs sources. En guise d'amuse-bouche, tous les clubs fondateurs de cette nouvelle ligue se partageront 3,5 milliards d'euros, eux qui attendent beaucoup des droits TV pour cette nouvelle compétition.
Michel, comment ça fonctionnerait ? À quoi devrait ressembler cette Super League ?
La Super League sera en concurrence directe avec la Ligue des Champions puisqu'elle se jouerait en semaine également. Il est prévu toutefois que les clubs engagés continuent à évoluer dans leurs championnats nationaux respectifs. En plus des 15 clubs qui devraient former à la base la Super League, 5 autres seront invités chaque année par ce championnat à 3 quarts fermés en fonction de leur performance. Le championnat se jouerait sous la forme d'une saison régulière avec des play-offs ensuite pour en déterminer le vainqueur. Remontée et défavorable au projet, l'UEFA et plusieurs fédérations ont affirmé qu'elles pourraient priver les joueurs engagés en Super League de leur compétition. Comprenez donc que l'Euro pourrait se jouer sans les meilleurs joueurs du monde, par exemple, quand la Super League européenne aura commencé. Le ballon rond s'est donc transformé en boulet rouge. Le football est entré en guerre.
Énormément de réactions après cette annonce. De nombreuses ligues professionnelles s'offusquent du projet. Même la sphère politique s'en mêle. Le président français Emmanuel Macron a critiqué un projet qui menace le mérite sportif. Tout cela alors que les responsables de l'UEFA se retrouvent aujourd'hui pour entériner la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Des précisions sur l'organisation de l'Euro qui commence dans 2 mois sont également attendues. Toujours en football, José Mourinho a été limogé par Tottenham. Le technicien portugais paye des résultats sportifs en deçà des attentes. Tottenham est actuellement 7e de première ligue anglaise à 24 points du leader.
Le temps restera dans l'ensemble assez ensoleillé avec quand même des développements nuageux. Cet après-midi, plus nombreux sur les franches montagnes, mais ça restera généralement sec. Les températures maximales sont de 8 degrés aux franches montagnes et 12 en pleine. Et demain, le temps sera ensoleillé avec quelques nuages bas en début de matinée par endroits et le développement de cumulus l'après-midi. À l'aube, il fera entre 1 et 2 degrés, puis ça grimpera jusqu'à des maxima compris entre 11 et 15 degrés sur notre région.